Voilà, on va partager en ce jour un sujet très intéressant, enfin en tout cas je le suppose, et ce matin nous avions eu l'occasion de pouvoir le partager ensemble. C'est un sujet qui est pour tout le monde, ça peut autant parler à nos voisins, à nos amis, à nos proches, à nos relations, mais ça va parler particulièrement aux couples. Et j'ai apporté, j'ai un sujet et j'ai un titre à ce message, le couple, duel ou duo. Voilà, je voudrais apporter cela parce que je crois qu'il est important pour chacun d'entre nous de réaliser que la vie chrétienne n'est pas toujours faite de chemins de joie, il y a parfois des chemins de pleurs, il y a parfois des combats, il y a des difficultés, il y a parfois des duels. Et il est bon de pouvoir avoir une lumière là-dessus au travers des Écritures. Et vous allez voir que ça ne va pas seulement pour le couple, mais ça va pour chacun d'entre nous. D'abord, je voudrais introduire ces moments au travers d'un texte dans Matthieu chapitre 19, à partir du verset 4. Matthieu chapitre 19, verset 4. Je voudrais saluer nos frères et sœurs qui sont derrière leur ordinateur. Que Dieu les bénisse, leur fasse du bien au travers de ces moments, et que Dieu parle à chacun de leur cœur aussi. Alléluia. C'est toujours une occasion de pouvoir être aussi touché au travers du petit écran, et que le Seigneur les bénisse richement. Voilà, dans Matthieu au chapitre 19, verset 4, il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Je voudrais commencer d'abord par des statistiques. En 2009, il y a eu 256 000 mariages célébrés en France contre 127 600 divorces. C'est ce que nous retrouvons aujourd'hui au travers des sondages Source INSEE. Et chaque année s'ouvre à Paris un salon pour réussir son divorce. Vous le saviez ça ? Chaque année. Et le salon s'intitule « Le salon de la séparation et du divorce ». Tout cela parce que cette société dans laquelle nous évoluons a intégré le divorce par défaut. Je disais que je connaissais une personne qui était venue me voir un jour en me disant « Vous savez, monsieur le pasteur, je suis allé voir mon notaire ». Parce que je vais bientôt me marier, dans 15 jours je vais me marier, et puis on ne sait jamais comment va la vie, mais je voudrais savoir comment on va faire pour que je puisse avoir tous les avantages en cas de divorce. C'est-à-dire que l'homme aujourd'hui a intégré cela, le fait de déjà penser au divorce avant même de se marier. Aux États-Unis, le milieu chrétien a un taux de divorce égal à celui du monde séculier. Même en France, le divorce devient un fléau qui touche nos églises. On n'est pas encore au niveau des États-Unis, mais croyez-moi, frères et sœurs, on voit de plus en plus de foyers, malheureusement, atteints, touchés, foudroyés par ce divorce. Les statistiques sur l'effet que provoque un divorce, les études ont démontré que le divorce cause des dommages collatéraux. Et là, je vais m'expliquer sur le fait de ces dommages collatéraux. En moyenne, 70 personnes dans l'entourage du couple est impacté par ce divorce. Enfants, parents, beaux-parents, frères et sœurs, amis, collègues de travail. Vous savez comment ça fait ? Tout simplement comme un cercle concentrique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, quand vous lancez une pierre dans l'eau, ça vous fait des petits cercles, ça va de plus en plus grand comme cela. On appelle ça des cercles concentriques. C'est-à-dire que quand une personne divorce, le séisme est très fort au sein du couple qui s'éclate. Mais ça a un tel effet que ça se répercute à plus de 70 personnes. Et quelqu'un me disait ce matin, vous savez, monsieur le pasteur, ce que vous dites, c'est vrai. Ça a touché des dizaines de personnes dans notre famille. Parce que ça a un impact incroyable. C'est comme un séisme sans précédent. Et je vais vous dire une chose, ça a créé un tel séisme que souvent un divorce provoque l'effet domino. Et bien souvent, certaines personnes divorcent dans l'année qui suit ce divorce-là. C'est terrible de voir comment des hommes et des femmes peuvent tomber dans ce piège. Les statistiques d'un remariage, parce que quand il y a divorce, bien souvent on repense, et bien souvent des gens repensent se remarier. 66% des remariages finissent par un divorce. Et je vais vous dire une chose, pour le troisième remariage, le taux atteint 75%. Bref, on ne résout pas le problème en changeant de partenaire. Je dirais même bien au contraire. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation, il faut comprendre une chose, pourquoi ? Parce que le couple est spirituel. Nous avons lu tout à l'heure quelque chose de très important. Hein, il est dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et je dirais qu'en premier point, la base d'un duo dans le couple passe par la famille. Il devient une seule chair, il ne devient qu'une seule personne. C'est-à-dire que, ben, tout simplement, si on se divise, on va se déchirer nous-mêmes. On va se détruire nous-mêmes, puisqu'on ne devient qu'une seule personne. Le rôle du diable, c'est d'essayer de briser, puisque dans Jean 10:10, il est dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire. Et c'est le travail du diable de tuer, de détruire, de briser des couples. Il va essayer de le faire. Il va essayer de briser, de déstabiliser. Vous savez que les satanistes prient pour que des couples chrétiens se disputent, se séparent, divorcent. Vous le saviez, ça ? Tout simplement parce qu'un couple solide est une famille solide. Parce qu'un couple solide est une église solide. Et parce qu'un couple solide est une société solide. Pourquoi cette société part en dérive ? Parce que le couple n'est pas solide. Parce qu'aujourd'hui, on parle de divorce avant même de se marier. Mais dans la vie chrétienne, dans la vie, d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, les données sont différentes. On ne devient qu'une seule chair. Et le diable voudra essayer de te détruire, de te déstabiliser, de te briser. Vous savez, j'ai rencontré un chrétien qui me disait, c'est incroyable, monsieur le pasteur, chaque fois que je veux venir au culte dimanche matin, c'est électrique avec mon épouse. Chaque fois, il y a une situation, même avec les enfants, et on part souvent en voiture, on est en colère. Souvent, il y a des cris, souvent, il y a des disputes. Avant même de rentrer au culte, on est déjà énervé. Tout cela parce que le centre de notre vie spirituelle passe au travers du couple. Alors revenons dans Matthieu chapitre 19. Il est dit au verset 5, l'homme quittera son père et sa mère. Dieu demande à couper le cordon ombilical. Dieu demande à couper le cordon ombilical. Mais pour quelle raison ? Parce que les deux sont devenus une seule chair. Cela veut dire qu'il ne doit pas y avoir d'autres personnes qui se greffent dans le couple. Et je vais vous expliquer pourquoi il ne peut pas y avoir deux personnes qui se greffent dans le couple. Parce que la Bible nous dit qu'on ne devient qu'une seule chair. On devient un dans le Seigneur. Le couple devient une seule chair, c'est indispensable, afin que l'homme et la femme construisent leur propre vie. Ils vont construire leur propre environnement. Ils vont construire, je dirais, leur propre intimité avec Dieu, parce qu'ils vont venir de cultures différentes peut-être. Ils vont venir d'éducations différentes. Ils vont venir, je dirais, peut-être de lieux différents. Ils vont avoir chacun à se découvrir, chacun à apprendre à s'adapter l'un à l'autre, à se frotter parfois parce qu'il va y avoir quelques incompréhensions. Mais au fur et à mesure, ils vont se forger ensemble une vision, une pensée avec le Seigneur au milieu. Écoutez-moi bien, parce que la vie chrétienne, c'est le symbole d'un triangle. Quand vous avez Dieu en haut, le mari, la femme en bas, si tous les deux s'approchent de Dieu qui est au-dessus, eh bien vous allez vous apercevoir qu'ils vont s'approcher l'un de l'autre, jusqu'à faire qu'un, avec le Seigneur. Et c'est ça la vie de couple. Et c'est pour cela qu'au milieu, il ne peut pas y avoir un électron libre qui vienne s'interférer. Qu'à un moment donné, il faut savoir couper le cordon ombilical. Il faut comprendre une chose, quand une mère, un père, un beau-père, une belle-mère, un copain, une copine s'introduit, s'infiltre, s'occupe ou se mêle de la volonté et l'intimité de Dieu au sein d'un couple, alors commence une œuvre de divorce. On a tellement vu de déchirements. Alors que c'était tout simplement des simples conseils, mais à partir du moment où des gens extérieurs viennent s'introduire dans un foyer, commencer à penser pour eux, commencer à dicter leur vie pour eux, alors commence une œuvre de divorce. Et si on laisse ces choses s'infiltrer et s'introduire dans la vie d'un couple, alors les choses vont s'éclater. La volonté de Dieu, elle sera complètement bafouée. Tellement de drames comme cela. parce que le Seigneur voudrait que tu deviennes qu'une seule personne avec ton mari, avec ta femme, avec ton épouse. On ne devient qu'une seule chair pour construire votre avenir dans le Seigneur. S'il n'y a pas séparation, il y aura division. Ça sera un duel au lieu d'un duo. Et à un moment donné, Seigneur Jésus te demandera vraiment de faire un choix. Moi, je bénis le Seigneur pour les parents que j'ai. Mon papa, ma maman, j'ai béni Dieu pour eux. Toujours été des gens de conseil, sages. Des gens qui ont vraiment apporté leur expérience, leur savoir-faire de leur vie. Mais ils ont toujours laissé les enfants choisir. Et c'est ça, la vie spirituelle. C'est savoir, je dirais, rester à sa place. Un couple doit savoir écouter le conseil des uns et des autres sans toutefois exclure la place de Dieu. Alors, s'il n'y a pas séparation, il y aura division. Et je crois que nous avons vraiment besoin de réaliser ces choses dans notre vie. Puis, s'attacher à sa femme et à son mari. Je crois que dans un duel, ce qui est important, c'est pouvoir s'attacher l'un à l'autre. Hormis Dieu, il n'y a rien qui doit prendre la place de notre épouse ou de notre époux. Rien. Il y a un ordre divin dans les priorités. Rien ne doit prendre la place de Dieu dans notre vie, à part le Seigneur lui-même. Et je vous dis qu'il y a des priorités parce qu'il y a d'abord Dieu, le couple, l'Église et le travail. Bien souvent, certains chrétiens ont mis le travail au milieu. Quelle erreur ! Avant l'Église, parfois même avant le couple. Or, le Seigneur te dit non, il y a des priorités. Tu ne peux pas déroger à la règle. Parce que cette règle et ces règles sont bibliques, sont spirituelles. Dieu d'abord. Puis le couple. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, un couple solide est une famille solide, une église solide, une société solide. Le couple. Puis après le couple, l'église. Tellement précieuse. Mais pour qu'une église soit solide, il faut que le couple soit solide. Et puis après, le travail. Quand bien même le travail serait spirituel, quand bien même on servirait le Seigneur dans une œuvre chrétienne, elle reste quand même en dernière position. Il faut que les priorités soient claires dans ta vie parce que dans tout ce que je dis cet après-midi, s'il y a vraiment une chose que tu dois retenir, c'est celle-ci. Dieu, le couple, l'Église, le travail. Dans Éphésiens, chapitre 5, verset 24, il est dit « Comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. Comme l'Église se soumet à Christ. Ça fait partie du duo que les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. Il n'y a pas soumission, c'est tout simplement de se donner l'un à l'autre. La soumission ne veut pas dire esclavage. Vous n'avez pas dit dans ce passage que la femme soit esclave de son mari. La femme n'est pas la bonne à tout faire, ni à être là pour assouvir aux caprices du mari. Je vais vous donner un exemple, un témoignage. Alors que j'étais allé manger chez des amis et à la fin du repas, je me suis retrouvé sur le canapé avec le frère à boire le café et l'épouse avait fini de débarrasser, puis elle était en train de faire la vaisselle avec les couverts qui avaient à finir à nettoyer. Et puis quand le frère a fini le café, je l'avais fini, m'a demandé si j'en voulais un, bien sûr. Et alors que la cafetière était juste à côté de lui, il demande à son épouse de venir le servir. Elle a séché les mains parce qu'elle était en train de faire la vaisselle. Elle s'est levée, elle s'est déplacée alors qu'elle était dans la cuisine. Elle est allée dans la salle à manger. Et la carafe juste à côté, c'est elle qui lui a servi. Je veux dire par là que la vie de couple, c'est une vie de partage. La femme n'a jamais été l'esclave du mari. Elle a été un complément. Elle est celle qui va l'accompagner. On ne devient qu'une seule chair. On devient un dans le Seigneur. Et je crois que nous avons besoin de réaliser ceci. Marie, aimez chacun votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Comment Christ a aimé l'Église ? En se donnant pour elle. Il est mort à la croix pour elle. C'est-à-dire que l'époux, doit être capable de pouvoir donner sa vie pour son épouse. C'est ce que dit le Seigneur dans ce passage. Parce que Christ s'est donné pour elle. Aimer, c'est d'abord penser à l'autre. Aimer, c'est toujours essayer de faire plaisir à l'autre. C'est ça l'amour. Et la personne qui est en face, c'est celle qui va nous aimer, ben, elle va penser la même chose. Ça va être réciproque. Ça va être un échange. Et non pas un sens unique. La vie chrétienne, c'est quelque chose d'important. Le foyer, c'est quelque chose d'important. Nous devons respecter le foyer. En sachant que l'épouse n'est pas, je dirais, une option dans le couple. N'est pas quelqu'un qui vient, je dirais, venir tout faire dans le foyer et être à la disposition du mari. Proverbe 18, 22, il est dit, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Alléluia, c'est une grâce. L'inverse, c'est pareil. Amen. C'est réciproque, puisqu'on ne devient qu'une seule chair. On se donne l'un à l'autre. Et c'est comme cela, parce qu'on va penser à l'autre, qu'on va se faire plaisir, parce qu'on va penser à l'autre, qu'on va trouver le bonheur d'être en duo, d'être ensemble. L'amour ne s'exprime pas seulement en parole, mais aussi en acte. Ça s'exprime aussi en acte. Pas le tout de dire à la personne, tu sais, chérie, je t'aime. Oui, c'est les paroles qu'il faut dire, et c'est vrai que ça sort du cœur, mais il y a aussi des actes qui sont là. Et un jour, un jeune homme a fait cette déclaration à sa femme. J'imagine, écoutez un petit peu cette histoire, parce qu'elle est vraiment incroyable. Alors que j'imagine ce jeune homme se mettre là, à fléchir le genou et se retrouver devant sa femme et lui dire, chérie, je gravirai les hautes montagnes pour toi. Je traverserai les océans. J'affronterai les déserts les plus arides. Je m'opposerai à ceux qui en veulent à ta vie. Je t'aime, tu es la plus belle. Je rêve de toi. Hein, je te fais de grosses bises à samedi s'il ne pleut pas. Il faut l'accompagner d'actes. Comprenez la chose. La vie spirituelle, c'est du sérieux. La vie de couple, c'est du sérieux. Et je crois que nous avons besoin de réaliser cela dans notre cœur. Un duo, ça passe aussi par la communication, savoir communiquer. Parler, écouter, cela semble tellement simple et pourtant. Des statistiques ont prouvé que dans les divorces, quand il y avait des divorces, il y a eu des sondages qui ont été faits et 87% des divorces sont par manque de communication. Il y a eu des malentendus. Ils ne se sont pas entendus parce qu'ils ne se parlaient plus, parce qu'ils ne dialoguaient plus, parce qu'il n'y avait plus de partage. Avoir de l'empathie, c'est-à-dire que le conjoint entre dans l'univers de l'autre. Et je crois que dans notre vie spirituelle, dans notre vie de couple, nous avons besoin de comprendre l'autre. Un mari empathique cherche à comprendre ce que vit, ressent sa femme. L'inverse aussi, c'est pareil. Je dis d'une chose, mais c'est pareil pour la femme à l'égard de son mari. Essayer de chercher de comprendre le besoin de l'autre. Parce que bien souvent, on s'arrête sur la première pensée, sur la première réflexion, et on sort la phrase, et même que, des fois, avant même que la personne finisse la phrase, on a déjà la réponse. Imaginez un peu. On a parfois des solutions toutes faites. Sans même prendre le temps de réfléchir. La majorité des conflits sont dus par un manque de communication, par des malentendus. Il faut alors engager un espace de dialogue. C'est obligatoire. Si nous voulons avoir un duo, nous avons besoin de discuter, partager. Discussion d'échange. Sachons parler, sachons écouter l'autre. Qu'il soit notre meilleur confident. Lui, elle, mais pas les autres. J'ai toujours été un peu embêté, embarrassé de savoir que l'un comme l'autre pouvait avoir comme meilleur confident une personne en dehors de l'époux, en dehors de l'épouse. Mon meilleur confident, c'est mon épouse. Quand on doit partager les combats, les soucis, les conflits de la vie, c'est avec mon épouse. J'ai toujours été gêné de savoir que des personnes avaient des confidents en dehors du couple. Parce que le duo, là, à partir de là, commence à s'effriter. Et je crois que nous avons besoin de prendre conscience qu'une vie de couple, c'est une, c'est qu'une seule chair. Si la confidence est à l'extérieur, il n'y a plus une seule chair, il y en a deux. Et ça, nous devons y réfléchir. C'est quelque chose d'important. Je dirais que la femme a un grand besoin d'être écoutée et l'homme a besoin d'apprendre à écouter. Sans forcément donner toujours des solutions, parce qu'on ne peut pas toujours en donner. Mais avoir ce temps d'écouter, d'écoute, je dirais d'échange, mais d'écoute aussi. Chose à ne jamais faire dans cette relation de communication, critiquer son conjoint. Critiquer son conjoint. L'humilier devant ses amis. M'est arrivé un jour à table de me retrouver avec des amis et le frère de rabaisser la sœur, son épouse. Alors il s'est mis à rigoler pour essayer de faire passer ça comme une vanne. J'ai vraiment été mal à l'aise. Ça m'a vraiment dérangé. Parce qu'on ne peut pas rigoler avec ça. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose, la rabaisser, c'est destructeur. Je rappelle que nous sommes une seule chair. Rabaisser sa moitié, c'est se rabaisser de soi-même. Puisqu'on est, on n'est qu'un. Humilier notre conjoint, c'est s'humilier soi-même. On ne peut pas s'amuser avec le couple, on ne peut pas rabaisser, on ne peut pas écraser cette moitié qui est notre, je dirais, notre complément, notre indispensable dans notre vie, dans notre équilibre. On ne peut pas se détruire comme ça, s'auto-détruire. Si tu respectes l'autre, tu seras respecté. Et un vrai duo passe toujours par là. Savoir respecter son conjoint. Plus il y aura de partage, de dialogue, plus grande sera la complicité et l'amour l'un envers l'autre. Ça sera quelque chose de très fort qui va se créer. Complicité, rien qu'au regard, on saura ce qu'elle pense. Rien qu'au regard, elle saura ce que moi, je pense. Rien qu'une réflexion, et vous voyez, je regarde mon épouse, là, et je sais ce qu'elle pense, déjà. Elle me dit, tais-toi maintenant, arrête là. Non, je rigole. Mais c'est important de savoir qu'il faut qu'il y ait cette complicité. Alors que chacun fasse des efforts. Je crois que ça passe par là. Et si tu cherches à changer ton mari ou ton épouse, il n'y arrivera pas parce que le fait déjà rien que de chercher à changer l'autre, ça veut dire que toi, tu n'as rien à te reprocher. Par contre, si tu veux voir l'autre changer, il faudra te remettre en question et voir ce qui ne colle pas dans ta relation avec ton conjoint. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça ne passe pas? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que nous avons besoin peut-être de se remettre en question. D'essayer de revoir cette situation. Vous savez, dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 11, il est dit « Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. » Dans Éphésiens 5, 28, il est dit « C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. » Waouh ! Comme leur propre corps. Et il est dit ceci « Celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. » Alors moi, je pose la question cet après-midi. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu aimes ta vie? Est-ce que tu t'apprécies? Parce qu'il est quand même dit quand même quelque chose de fort. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur propre femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Mais le point le plus important, si nous voulons avoir une relation qui dure, pour que nous puissions avoir un équilibre, une bonne communication, il faut que ça passe aussi par le pardon. Si tu n'es pas capable de pardonner, si tu n'es pas capable de demander pardon, tu n'arriveras jamais à créer un duo là où il y a un duel. Tu n'arriveras jamais à reconstruire ce qui a été brisé. Parce que tout passe par le pardon. Et si on est capable de demander pardon à Dieu, on est capable de demander pardon à sa femme. Et l'inverse est pareil. Parce que c'est au travers du pardon que nous brisons toute puissance de division, de divorce que l'adversaire voudrait mettre, voudrait insuffler dans les foyers chrétiens. Et je voulais vous dire une chose aussi très importante et je voudrais vraiment que nous puissions prendre conscience de cela. Parfois, le divorce est au sein du couple sans que cela prenne une forme officielle devant le juge, devant la justice. Je m'explique. On sait qu'en tant que chrétien, on ne va pas divorcer. Certes, on risque peut-être de troubler l'Église, on va passer devant un juge, ça va créer un séisme incroyable dans, tout autour de nous, on en a parlé tout à l'heure, mais écoutez-moi bien. Il y a parfois des couples qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, mais ils se tolèrent comme amis, mais ils ne s'aiment plus. Et là où je voudrais attirer votre attention, c'est sur le fait que parfois, il y a des divorces qui sont déjà consommés dans les cœurs, dans les pensées, alors que les couples sont déjà ensemble depuis des années. Il y a quelque chose que je voudrais vraiment faire prendre conscience cet après-midi, c'est que peut-être tu es retrouvé dans cette situation, ou tu es peut-être dans cette situation, ou dans ton cœur c'est cassé, dans ta vie c'est cassé avec ta femme, tu es là, vous vous tolérez, vous êtes devenus des copains, copines, vous n'êtes même plus ensemble, vous dormez même plus ensemble. Et vous êtes là, je dirais, toujours en couple pour vous donner bonne figure. La parole de Dieu nous montre que ce n'est pas comme ça qu'on construit, qu'on dure et qu'on fait durer une vie chrétienne. Ce n'est pas en mettant un masque qu'on va avancer dans la paix et dans la joie. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un couple, un couple solide, c'est une famille solide, c'est une église solide, une société solide. Or, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. Je crois que c'est quelque chose de capital pour chacun d'entre nous cet après-midi de prendre conscience de cela. Nous avons besoin de passer peut-être par la puissance du pardon pour briser les duels qui sont parfois dans les couples. Parce que souvent, dans les duels de couple, on cherche à savoir qui a tort. On ne veut pas plier parce qu'on se dit « mais tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela ». Et c'est une guerre de tranchées, de positions. C'est une guerre de raison, savoir qui a raison, qui a tort. Il y a des fractures à cause des positions dans lesquelles on se tient, on se braque, on se tient là, et on se dit « mais j'ai raison ». Et c'est comme cela que malheureusement, on voit des foyers complètement éclatés, des vies complètement détruites, des vies complètement explosées. Et quand on arrive à la fin et que les gens se divorcent et qu'on partage avec eux, on s'aperçoit qu'au bout de quelques temps, ils le regrettent forcément, parce qu'ils se sont dit, oh, si j'avais su, j'aurais dû peut-être plier un petit peu et reconnaître que moi aussi j'avais des torts. Tant qu'on ne reconnaît pas ses torts et qu'on reste sur un non-pardon, ben, on pourra rester avec une belle apparence comme cela, on pourra venir en couple. À la limite, parfois, on pourrait même se tenir dans la main pour se donner bonne figure et faire croire que finalement, entre nous, ça va. Alors qu'on sait très bien qu'au milieu, c'est brisé, c'est cassé, c'est détruit, c'est complètement explosé. Le Seigneur voudrait que tu puisses vraiment réaliser cela en cet après-midi. Alléluia. Puissions prendre conscience de ces quelques paroles cet après-midi. Puissions prendre conscience, je dirais, de ces quelques mots cet après-midi. Je voudrais dire un mot à la jeunesse et terminer avec ça. Si Jésus ne prend pas les commandes de ta vie, toi qui es jeune, de cette vie sentimentale, tes sentiments se transformeront en larmes. Parce que nous sommes dans une jeunesse aujourd'hui qui est complètement, complètement bouleversée. Toutes les valeurs sont complètement détruites. On a changé le mal en bien, le bien en mal. Toutes les valeurs sont complètement mises à zéro, à plat. Et le Seigneur voudrait dire tout simplement cet après-midi que si Jésus ne prend pas tes commandes, les commandes de ta vie, cette vie sentimentale, tes sentiments se transformeront en larmes. Si le garçon ou la fille est volage, avant le mariage, il le sera après. Je voulais te dire, toi qui es jeune, si sa priorité sont les copains ou les copines, avant le mariage, ça le sera après. Et puis, si un garçon est capable de respecter sa fiancée avant le mariage, il la respectera après. Il y a des valeurs. C'est pour ça que dans Exode 22, 16 à 17, elle dit « Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qui couche avec elle, elle paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. » Vous avez parlé là de la fornication, c'est-à-dire des relations sexuelles avant mariage. Toutes les conséquences que cela peut avoir sur les jeunes, sur la jeunesse. Il est dit dans 1 Corinthiens 6, 16, « Fuyez la fornication », c'est-à-dire relation avant mariage. Quel péché qu'un homme commette, c'est hors du corps. Mais celui qui commet la fornication pêche contre son propre corps. C'est-à-dire qu'il est en train de s'autodétruire, de s'avilir, de s'abîmer. Lui, mais d'abîmer aussi sa compagne. Alors que plus tard, ils vont devenir qu'une seule chair dans le Seigneur. Ça a des conséquences terribles. Et les statistiques ont prouvé que souvent, quand il y a eu, je dirais, des relations avant mariage, par la suite, il y a d'autres relations, je dirais, en dehors du mariage, adultères. Ça crée un cataclysme dans l'esprit de la jeunesse. Aujourd'hui, on s'aperçoit que vraiment, c'est une situation, je dirais, qui est grave. Pourquoi ? Parce que la vie de couple, la formation de ce futur couple, c'est spirituel, ça vient de Dieu. Tu quitteras ton père et ta mère et vous deviendrez tous les deux une seule chair. Que la fornication ni aucune impureté ne soit même nommée parmi vous comme il convient à des saints. Pourquoi ? Parce que le Seigneur nous fait réaliser que respecter l'autre, c'est se respecter soi-même. Parce que la vie de couple, c'est tout simplement une vie qui appartient à Dieu. Et si tu donnes ton corps, si tu donnes ta vie, si tu donnes ton âme au Seigneur, c'est lui qui va la gérer, c'est lui qui va la diriger. Il va aller même bien plus loin. C'est-à-dire qu'il va t'apprendre à respecter l'autre, mais il va te donner la bonne compagne, le bon compagnon. Celui avec qui tu vas durer, avec qui tu vas éviter les duels pour vivre une vie de duo, une vie de tout simplement de joie, de partage. Oh, avec des hauts, des bas, hein. C'est normal, mais avec une vie équilibrée qui va durer et qui va permettre à des enfants après de vivre dans un foyer équilibré, dans un foyer stable. Parce que ce foyer sera stable, l'Église sera stable, la société sera stable. Et je crois que nous avons besoin tous de prendre conscience de cela cet après-midi et que nous puissions réaliser qu'on ne s'amuse pas avec les sentiments et on prend au sérieux pour chacun d'entre nous cette vie de couple. Alléluia. Courbons nos fronts quelques instants. Gloire à toi, Seigneur. Je voudrais cet après-midi prendre quelques minutes pour un appel. Plusieurs personnes ce matin sont venues me voir, nous avons partagé ensemble et personne qui est venue avec un cœur complètement cassé, personne qui s'est laissé piéger par la dure réalité de la vie. Un homme de 40 ans qui est venu en pleurs, inconsolable. Et combien de fois nous avons été piégés, combien de fois nous pouvons être piégés par tout ce que nous avons pu partager, tout ce que nous avons pu dire cet après-midi. Il y a peut-être un point ou des points sur lesquels peut-être tu t'es senti concerné, tu t'es senti interpellé. Et mon frère, ma sœur, je voudrais te tendre la main cet après-midi. Je voudrais vraiment que nous puissions saisir l'occasion cet après-midi de se tourner vers Dieu, de prendre peut-être la victoire sur une situation qui dure peut-être depuis des mois, des années. Tu es en duel avec ton conjoint, c'est plus ça, c'est plus la vie de couple. Il est devenu peut-être comme ton ami, il est devenu peut-être comme tout simplement présence dans la maison. Et tu es devenu toi-même l'ombre de toi-même. Le couple a complètement disparu. Tu ne te retrouves pas dans cette vie avec ton mari, avec ta femme. Les années ont fait que l'adversaire a usé ton couple, a brisé ton couple. Et tu fais peut-être bonne figure comme ça parce que tu veux que rien ne se sache, rien ne se dit, que ça ne s'ébruite pas. Mais sache une chose, mon ami, c'est que ça se ressent et ça va se sentir. La question n'est pas de savoir dans quel état tu te trouves, la question c'est de savoir est-ce que tu veux te sortir de cet état. Est-ce que cet après-midi tu veux remporter une victoire sur le piège que l'adversaire t'a tendu? Il en a voulu à ta vie parce que parce qu'il savait que ta vie de couple, c'était une vie qui était solide, qui était sérieuse. Tu avais des enfants et tu les as et qui grandissent. Et il a voulu casser tout ça. Il a voulu essayer de te briser parce que tu n'as pas veillé peut-être à ta vie spirituelle. Parce que tu t'es laissé flouer, trompé par l'adversaire. Et cet après-midi, le Seigneur voudrait te tendre la main. Peut-être qu'avec ton conjoint, tu ne te parles plus. Vous dites tout simplement les généralités de la vie, mais vous n'avez plus d'échange, vous n'avez plus de projet, vous n'avez plus d'avenir. Mon frère, ma sœur, je veux t'aider dans la prière. L'Église veut t'aider dans la prière. Alors que nous sommes là, les yeux fermés, je vais prier avec toi. Parce que cette affaire, elle est sérieuse. Elle est sérieuse pour chacun d'entre nous et pour moi le premier. Ce que je vous ai partagé cet après-midi, vous savez, je me l'applique à moi-même. On se l'applique pour tous. S'il y a quelqu'un cet après-midi qui voudrait tout simplement saisir la grâce de Dieu, je vous inviterai tout simplement à lever votre main. Oui, que Dieu vous bénisse. Oui, plusieurs mains se lèvent cet après-midi. Plusieurs personnes réclament la grâce de Dieu dans leur cœur. Oui, que Dieu vous bénisse. Oui, baissez votre main devant, je vous ai vu aussi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui, je t'ai vu. Amen. On va prier ensemble. On va demander au Seigneur de briser cette puissance de duel, cette œuvre de destruction, cet esprit de division, cette œuvre de querelle, de dispute. On sait que ces choses-là viennent du diable. Et s'il attaque les foyers, c'est parce qu'il sait que c'est spirituel. Alors on va demander au Seigneur sa grâce. Je vous demanderai de vous lever à votre place. On va prendre position ensemble dans la prière. Alors que notre frère nous conduit dans un champ, on va prier. On va demander au Seigneur, on va lever nos mains, on va demander à Dieu d'agir sur toutes ces personnes qui ont réclamé la prière cet après-midi. On va demander au Seigneur d'agir puissamment dans les cœurs. Je voudrais commencer déjà à entendre la prière de mes frères et mes sœurs cet après-midi. Je voudrais entendre vos prières commencer à s'élever, à demander la grâce de Dieu sur ces vies, à demander la grâce de Dieu sur ces couples qui peut-être passent des temps difficiles, des temps de conflit, des temps de tension. Il y a des duels là où il y aurait dû avoir des duos. Il y a vraiment un temps compliqué. Le Seigneur voudrait agir dans votre vie cet après-midi. Commençons à élever nos voix et nous allons prier ensemble. Nous allons demander à Dieu la bénédiction dans ses cœurs. Alléluia. Nous allons demander à Dieu la puissance. Alléluia. De restauration des foyers. Amen. La puissance de réconciliation cet après-midi dans ce lieu. Nous allons réclamer à Dieu la puissance de libération dans les vies. Amen. Que le Seigneur vienne, alléluia, redonner l'unité là où il y a la division, redonner la paix là où il y a les conflits, alléluia, donner la bénédiction là où il y a la malédiction, donner la joie là où il y a les pleurs. Que le Seigneur vienne redonner la grâce là où il y a vraiment le désespoir. Amen. Seigneur, nous te prions ensemble, Seigneur, pour ces amis, ces frères et sœurs qui ont levé la main cet après-midi. Seigneur, nous réclamons, l'Église entière réclame. Seigneur, un puissant miracle, puissante, Seigneur Jésus, transformation dans ce foyer. Au nom de Jésus, alléluia. Seigneur, étends tes mains, Seigneur. Agis dans ces cœurs, agis dans ces foyers, Seigneur. Viens mettre le duo, Seigneur, là où il y a le duel. Viens mettre la vie là où il y a la mort, Seigneur. Viens mettre la joie là où il y a la tristesse. Amen. Viens mettre l'unité là où il y a la division. Esprit de Dieu, agis dans ces cœurs. Manifeste-toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh, touche cet après-midi. Touche cet après-midi. Touche cet après-midi, Seigneur. Touche maintenant, alléluia. Agis, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Révèle-toi dans les cœurs. Seigneur, commence à faire une œuvre. une œuvre de restauration, une œuvre de restauration. Manifeste ton nom. Oh, merci, Seigneur Jésus. Gloire, 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 gloire à l'agneau de Dieu. Tu as remporté la victoire, Seigneur. Tu as vaincu la mort, alléluia. Oh, Seigneur, avec les anges dans la gloire, nous chantons ton nom, nous louons ton nom. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras dans le nom puissant de Jésus.